A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Spotzl, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 138, et ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je parle avec Fanny Bensoussan et accrochez-vous parce que Fanny, c'est du costaud. Paris-Brest-Paris, Transsibérica et tellement d'autres épreuves, et tout ça avec un mental de guerrière. Fanny, elle a un plan et elle déroule son plan jusqu'à l'arrivée et rien ne peut la perturber. Et en plus, à la fin de l'épisode, Fanny vous fait un tutoriel spécial café artisanal à la maison. Sans plus attendre donc, Fanny Bensoussan. Fanny, mais quel plaisir! J'ai l'impression de refaire la même chose le lendemain avec dans le même décor, mais avec un personnage différent et... Je suis sûr qu'il ne va pas hésiter à venir s'incruster dans le paysage comme il l'a fait tout à l'heure, le bougre.
Ah, je sais pas. Je pense que là, il s'est enfermé ailleurs et il va nous laisser tranquille, peut-être.
Ouais, il est parti faire la sieste, en
peut-être
fait.
Peut-être qu'il voudra quand même faire le show et il passera, ouais.
Je pense qu'à un moment donné, son tempérament va refaire surface. Moi, j'aimerais savoir un seul truc. Sans aucun doute, tu es parmi les meilleurs mondiales. Pardon ?
L'interview va être très courte, du coup.
Pourquoi ?
Bah, tu veux savoir un seul truc ?
Ouais, mais le reste, je vais broder autour du reste. En fait, pour être précis, je n'ai préparé qu'une seule question aujourd'hui.
Okay.
Le reste, je compte sur mon instinct d'improvisateur, qui m'a fait souvent défaut par le passé. Tu es sans aucun doute parmi les meilleurs mondiales en bikepacking, tout sexe confondu. Qu'est-ce qui te manque pour battre Fiona Kolbringer ?
Ah bah, ça c'est très facile, il manque beaucoup de vitesse. Je suis très très lente. En fait, Fiona, elle est très très rapide. Moi, je peux aller très loin, je peux rouler très longtemps, je peux ne pas m'arrêter beaucoup. Par contre, je reste à... Ouais, ma vitesse de croisière, elle est en mode croisière, quoi. Je suis un gros yacht.
La croisière s'amuse, donc.
Ouais.
Mais est-ce que tu t'amuses vraiment ?
Ouais, je m'amuse beaucoup. Ouais. C'est pour ça que j'y retourne. Mmh.
Bon, est-ce que c'est uniquement une question de puissance ? Ça veut dire que... T'es au bout, au maximum de tes capacités ou simplement c'est pas quelque chose qui t'intéresse de développer finalement ? Parce que je sais aussi que t'as de très bons rudiments d'entraînement. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux simplement pas améliorer ? Que être la meilleure ou battre Fiona, si on devait battre quelqu'un, c'est quelque chose qui t'intéresse pas ?
Si, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Puis il n'y a pas que Fiona, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres personnes devant moi. Et comme tu disais, tout sexe confondu. Moi, je ne veux pas battre juste les femmes devant moi. J'aimerais autant battre tous les gens qui sont devant moi. Je pense que je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas au niveau des tout premiers. Parce que, justement, il me manque cette puissance. Mais ça m'intéresse toujours de la développer et d'essayer d'aller plus loin et donc d'aller plus vite aussi. Après, il y a aussi que je crois qu'une fois que je suis sur le vélo, je suis très en retenue. Je suis pas habituée à faire des efforts de type sprint sur même 50, 100 bornes. Je suis toujours en train de me dire qu'il faut que j'en garde un peu sous la pédale parce que je fais pas que 50 ou 100 bornes en général, j'en fais plutôt 1000, voire beaucoup plus.
Est-ce que c'est un excès de prudence ou un manque de confiance ?
Je pense que c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance et ouais, c'est un peu de paresse aussi parce que je sais qu'à cette allure-là, je vais quand même dépasser des gens en fait. Mmh. Je vais quand même être dans les premiers. Et du coup, je me dis ça va. Le type, il a beau être devant moi maintenant, d'ici 3 jours, c'est moi qui serai devant. Je le sais. Mais j'ai quand même fait l'effort, par exemple, sur la Tout Volcano, là, cette année. Le premier jour et le troisième jour, j'ai vraiment, vraiment fait l'effort de pousser sur les pédales. Alors, ouais, je me rends compte que ça fatigue vachement plus, ça fait vachement plus mal aux jambes, quand même. Mais c'est quelque chose que je cherche à développer, ouais, qu'il faut que je travaille quand je suis à Paris, à la maison, sur le home trainer, et qu'il faut que je me pousse plus quand je suis en course aussi. J'ai toujours ça à l'esprit. Après, il n'empêche que je pense que physiquement, je peux pas atteindre des moyennes extraordinaires. Mais je peux faire mieux, et c'est bien. Je peux toujours faire mieux. Tout le monde peut toujours faire mieux. On peut toujours s'améliorer. Donc oui, je continuerai à. Enfin, ce serait trop chiant de se dire que je suis bloqué là à un certain niveau. Non, je peux faire beaucoup mieux.
Alors du coup, tu vas faire comment pour t'améliorer, progresser et avaler tous ceux qui sont devant toi ou dans la chambre d'à côté?
Moi, je vais...
Déjà, celui qui est dans la chambre d'à côté, c'est facile, tu peux le ligoter pour la prochaine course.
Voilà, lui, il y a plein de trucs que je peux faire, c'est assez facile.
Déjà, un de moins, tranquille.
Voilà. Mais je vais continuer... Bah, là, comme je vais me rebaser à Paris pendant quelques temps, je vais continuer à m'entraîner sur home trainer. Faut que je, pour mes petites sorties aussi, que je fais souvent en mode tranquille, parce que moi je pense jamais à mes sorties quand je vais rouler avec les copains, je pense jamais en termes d'entraînement, mais en fait il faudrait que je pense un peu plus en termes d'entraînement, et que quand je vais faire juste 100 bornes avec les copains, que je me pousse. Et puis il faut que je continue à me pousser aussi quand je suis en course, que je me dise que ouais, même si ça va durer 3-4 jours, une semaine, et ben, il faut que tous les jours que j'aille un peu plus vite.
Et à ton avis, Fiona, elle roule ou elle s'entraîne?
J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout.
T'échanges pas avec elle là-dessus?
Non, on en a pas. Moi, en vrai, j'en sais rien.
T'en sais rien ou tu t'en fous?
Enfin, les deux, parce que si ça m'intéressait, j'irais chercher.
Tu lui aurais posé la question, oui.
Ouais, je sais pas, chacun fait, chacun s'entraîne ou roule comme il veut. Moi, je peux pas copier ce que font les autres non plus. Je vais m'inspirer certainement, mais je pense que déjà, en fait, je sais assez précisément ce qui me manque pour être meilleur. Et je sais comment m'entraîner, donc si voilà, c'est à moi de me mettre un coup de pied aux fesses. Ce qui fonctionne pour les autres fonctionne pour les autres et pas forcément pour moi. Moi, je sais ce qui pourrait fonctionner dans mon cas.
Alors, qu'est-ce qui pourrait fonctionner?
C'est ça, m'entraîner sur home trainer, essayer de prendre de la vitesse, pousser plus dans mes jambes, me faire réellement mal. Par exemple, je trouve ça difficile, en fait, de s'entraîner en vélo sur des distances aussi longues. En revanche, je sais très bien, j'ai fait pas mal de prépa, de course à pied, et je trouve ça, c'est les prépas de course à pied, moi, je me suis beaucoup entraînée pour des 10 km ou pour des semi-marathons, et du coup c'est sur un temps très réduit et tu vois le résultat très très vite. Et en fait, je me dis qu'il faut juste que j'applique ça sur une échelle un peu plus grande pour le vélo. Mais du coup, je sais qu'en course à pied, par exemple, un entraînement, c'est vraiment, je me fais très mal. Je peux sortir d'une séance d'entraînement en course à pied où vraiment je suis au bout de ma vie, j'ai plus de jambes, j'ai plus de souffle, je suis rouge de partout, et j'ai besoin de m'étendre pendant une heure histoire de récupérer. Je fais jamais ça en vélo, peut-être parce que j'aime pas trop la course à pied et que du coup je veux être extrêmement efficace, alors que le vélo, j'aime beaucoup ça, et que du coup, dès que je sors, j'ai juste envie d'en profiter et pas de m'entraîner. Ouais, je suis un peu paresseuse, hein, en vrai.
Alors, qu'est-ce qui t'a mis sur un vélo, à part que t'as essayé de fuir la Normandie?
Ouais,
ah, mais t'as vu, je me suis documenté quand même, hein.
c'était quand même un petit peu avant. Et en vrai, j'ai plutôt fui Paris pour aller en Normandie à ce moment-là, et pas le contraire.
Ah.
Mais non, c'était il y a, je ne sais plus combien d'années, 6-7 ans maintenant. Je suis intermittente du spectacle, et du coup, des vacances ou du chômage, on appelle ça comme on veut, j'en ai quand j'en ai, et pas forcément en même temps que tout le monde. Du coup, il y a un moment où je me suis retrouvée en vacances, à un moment où personne n'était en vacances, j'avais envie de partir, J'avais pas envie, enfin j'avais envie de partir, du coup j'étais toute seule. J'avais pas envie de partir, de rester quelque part sur place et de visiter quelque chose. Enfin, je me voyais pas être statique quelque part. Pour autant, j'étais pas sportive ni rien, mais j'ai commencé à regarder, tiens, est-ce que je peux faire un hike, est-ce que... Je suis tombée sur un truc de vélo, un voyage tout organisé. Je débarquais de l'avion, quelqu'un venait me chercher, me mettait un vélo entre les mains. Ça s'était occupé de faire une trace pour moi, de me mettre, m'installer le petit GPS. Même mes bagages étaient baladés d'hôtel en hôtel, hôtel que je n'avais pas réservé. Voilà, c'est le truc tout clé en main. Et moi, j'avais jamais fait de vélo réellement, quoi. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je faisais 60-80 km par jour. Et c'était dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et j'ai adoré ce voyage. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais hyper tôt, hyper excitée à l'idée de faire cette petite distance à vélo. Et du coup, je grimpais sur le vélo et je parcourais cette distance assez facilement. J'arrivais en début d'après-midi à ma destination. Je disais, bah, c'est sympa cette petite ville, c'est mignon, mais on a vite fait le tour. Et en vrai, la meilleure partie de ma journée, c'était quand j'étais en train de pédaler. Du coup, je suis rentrée à Paris et j'ai acheté un vélo de route et j'ai commencé à faire du vélo. Et 3 mois plus tard, je faisais 200 bornes.
À quel moment tu t'es dit, tiens, il semblerait que j'ai une certaine facilité sur le vélo? Est-ce que c'est pendant ce voyage ou c'est pendant le 200 ou après, ou à un autre moment, tu t'es dit, tiens, tout le monde dit que le vélo c'est dur, mais moi j'y arrive bien.
Alors, on m'a jamais dit que c'était dur en fait.
Tu ne le savais pas, donc tu y es allé à fond.
Oui, j'ai pas l'impression que j'ai des facilités, hein, parce que je te dis, sinon j'irais peut-être plus vite si j'avais des facilités. Mais non, quand j'ai commencé à rouler, je roulais avec un club. J'ai commencé à rouler en janvier. Du coup, les sorties hivernales, je les ai faites. Tout le monde les faisait dans le club, donc je les faisais aussi. On m'a pas dit que c'était difficile. Enfin, les gens les faisaient, donc je les faisais. Mmh. Voilà, c'était logique. Le premier 200 que j'ai fait, c'était parce que ce club, très comme le font les clubs traditionnellement, ces gens-là faisaient participer au BRM. Donc le premier de l'année, c'est un 200. Moi, j'ai juste suivi bêtement, en fait. Les gens le faisaient, donc ils m'ont pas dit « Non, mais ça va être hyper dur !» Ils m'ont dit « Non, bah, on fait un BRM 200, enfin, comme tous les ans, quoi. » Je fais « Bon, bah, ok, moi, je fais pareil. » J'ai juste suivi, hein, bêtement, et...
Donc, t'as suivi le mouvement.
C'était dur, et j'ai trouvé ça dur, hein. J'ai pas trouvé ça hyper simple depuis le début, mais en même temps, ça m'amusait beaucoup, donc... J'ai jamais trouvé que j'avais des facilités et encore maintenant, je trouve pas que j'ai des facilités. Par contre, j'aime bien ça. Ou j'aime bien la difficulté, en fait. C'est ça, je sais pas.
Et ce premier 200, alors, parce que là, on voit beaucoup de trucs, on voit aussi beaucoup de messages sur. J'en vois aussi beaucoup passer, on m'écrit beaucoup aussi à ce sujet-là sur j'aimerais bien faire mon premier 100, mon premier 200, ou j'aimerais bien casser la barrière des 300, etc., etc. Qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ce premier 200 et comment ça s'est passé?
Ça s'est pas mal passé. Après, mars, il a fait très très froid et en plus, on avait été au départ et on était revenu chez nous en vélo, donc on était plus à 250 bornes que seulement 200. Et on était tous absolument épuisés à cause du froid, en fait, surtout. On a vraiment roulé dans le froid. Mais sinon, encore une fois, j'ai vraiment juste suivi. J'ai trouvé ça quelque part facile parce qu'un 200, pour moi, c'est encore très accessible à tout le monde parce qu'il suffit de rouler toute la journée. Je crois que c'est plutôt mon premier 300 où là, je me suis dit « Waouh, c'est totalement délirant ce truc ». Où là, ça a vraiment commencé à m'impressionner parce que là, je trouvais que c'était quelque chose de... complètement dingue parce qu'il y avait une partie de la nuit que à la fin on était avec un copain et à la fin de ce 300 on était en tête d'un petit groupe. Bon, on devait avoir le vent dans le dos et la route était plate, mais tout d'un coup on s'est réveillé, on s'est dit putain c'est dingue, on est à 250, on arrive à nos 300 km et on est à 27 km/h là, et vraiment là on s'est regardé, on se disait mais c'était complètement fou. Et je pense que pour y arriver, il faut juste être bien entouré, avoir une bonne équipe et y aller progressivement. Moi, c'est ce que j'ai fait, même si ça a été très très vite. Il n'empêche que j'ai commencé à rouler un mois de janvier, on faisait des 70-80 bornes, et on a augmenté tranquillement jusqu'à ce premier 200, et puis après mon premier BRM 200, j'ai fait un BRM 300, j'ai fait un BRM 400. Il faut y aller progressivement, et c'est vraiment accessible. Par contre, enfin, moi, je trouve ça toujours impressionnant.
Tu as fait combien au maximum avant le 200? T'as fait 150, 160, 140 avant le 200?
J'ai dû aller jusqu'à 140, 130, 140.
Ouais. Et la différence entre 140 et 200, t'en as pensé quoi?
C'est pareil, c'est juste que c'est plus long. C'est juste que c'est vraiment, pour moi, en 200, c'est juste tu pars le matin et tu reviens le soir. L'idée, c'est juste de rouler toute la journée. Je trouve que la différence, elle est vraiment marquée à partir du moment où tu inclus des heures de nuit dans ton roulage. Et là, ça fait un vrai choc parce que c'est vraiment quelque chose. Un 200, c'est vraiment, tu te dis, bah voilà, je vais juste rien faire d'autre de ma journée. Je vais me lever le matin, je prends mon petit déj, je vais rouler, 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 rouler. Le soir, je rentre, je dîne. Mais ta journée, elle n'est pas perturbée. Quand tu roules plus que ça, là, vraiment, ça te change parce que tu vas te lever plus tôt ou tu vas rentrer dans la nuit. Et là, il y a quelque chose de vraiment différent, de vraiment marquant, d'un peu choquant, où là, tu te dis, c'est un peu extraordinaire, c'est un peu fou.
Pourquoi c'est un peu fou?
Parce que c'est parce que c'est pas facile, parce que tu te mets en difficulté, tu fais un truc qui n'est pas habituel, tu fais un truc qui perturbe tes repères de temporalité, parce que tu vas passer des heures et des heures juste à rouler, et tu vas faire les choses que tu fais habituellement dans ta journée, c'est-à-dire petit déjeuner, passage de journée, dîner, tu te couches, c'est mis sans dessus dessous, quoi. Tu vas faire quelque chose de vraiment différent. Les gens n'imaginent pas perturber à ce point leur journée, leur semaine, leur week-end. Et c'est vraiment là, tu passes beaucoup de temps à faire que rouler. Et c'est quelque chose d'un peu étrange. Et tout le monde nous dit hein, pourquoi on fait ça. C'est des gens étranges quand même qui font ce genre de truc. Pourquoi on va rouler la nuit? C'est bizarre.
Alors toi, pourquoi tu roules la nuit, toi?
Je
Pourquoi
sais pas.
Tu roules des nuits entières?
Je crois que je suis bizarre.
Alors ça, t'as le droit, hein. Tim Burton l'est aussi bizarre, mais toi, qu'est-ce qui te rend bizarre?
En fait, quand on a commencé à faire des 300, des 400, c'est parce que, et qu'on roule du coup la nuit, parce qu'on cherche, ou du moins moi, en tout cas, c'est ce que je cherche, c'est quelle est la limite quand on a fait un truc un peu fou, et qu'on se rend compte qu'on peut le faire et que est-ce que c'est pas si fou finalement, ou est-ce que on s'impressionne de pouvoir le faire parce que c'est fou. Et du coup, on va chercher qu'est-ce qu'on peut faire encore plus. Donc rouler encore plus longtemps, donc rouler la nuit. C'est se pousser toujours un peu plus en fait.
Mais maintenant que tu roules plusieurs jours consécutifs, que tu traverses l'Espagne ou que tu rejoins plusieurs volcans ou ce genre de choses, est-ce que cette impression de bizarrerie du début ou de sensationnalité du début, tu l'as toujours? Ou est-ce que justement, comme tu dis, t'essayes de toujours repousser les limites de la bizarrerie et de renouveler cette impression de « waouh, c'est ouf ».
Je pense pas que je trouve ça un jour normal. Quand je suis sur le vélo, bizarrement, et que je roule nuit et jour, je dirais pas que je trouve ça normal, mais je trouve ça logique. C'est dans ma logique, en tout cas. Ça me perturbe plus autant. Je trouve que j'ai un objectif, et s'il faut rouler nuit et jour pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits, c'est logique. C'est quand même bizarre. Après coup, ou non, pire, avant d'y aller, par contre, je me dis, c'est vraiment, vraiment, c'est bizarre. Et j'ai beau l'avoir fait plusieurs fois, je me demande comment j'y arrive. Vraiment, a priori, je me dis toujours, mais c'est... Je vais vraiment réussir à faire ça? Je vais vraiment rouler tant de kilomètres, tant de jours, tant de nuits, arriver à grimper tant de cols à la suite les uns des autres. Je trouve ça toujours très très étrange. Une fois que j'y suis, peut-être que j'ai pas le choix ou je me donne pas le choix, mais je trouve ça logique quand j'y suis. Mais avant, je trouve ça vraiment toujours très très bizarre.
Est-ce que tu as un moment des fois où tu dis « Est-ce que j'en suis toujours capable ?»
Ouais. Ouais, tout le temps, tout le temps. Avant de commencer une course, je sais jamais si j'en suis capable. Je sais que je l'ai déjà fait, mais je sais jamais, j'arrive jamais à me souvenir comment j'ai réussi.
Quand ça va mal, tu te raccroches à quoi sur une course ?
Je me raccroche à l'arrivée. Je sais que c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là, donc a priori, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et puis en plus, souvent, la seule façon d'arrêter d'être pas bien, c'est de finir. Et pour finir, il faut juste continuer. Donc, je me raccroche vachement à ça. Je me dis que. Puis je me dis aussi souvent que, quand il y a un moment qui est moins bien, ça passe parce qu'on va être un peu plus loin, on va être quelques heures plus tard et il y aura un rayon de soleil, il y aura un café quelque part et ça passe toujours. Parce que justement, on est pendant très longtemps sur le vélo et que les émotions, elles montent et elles descendent, c'est jamais les mêmes. Et du coup, si je suis pas bien à un moment donné, d'ici 2 heures, d'ici 50 kilomètres, ça ira mieux.
Tu veux dire que tu te sentirais encore plus mal si tu abandonnais que si tu continuais à te sentir pas trop trop bien en continuant à avancer ? C'était pas clair comme phrase, mais...
Non, je vois ce que tu veux dire. Alors, quand je suis en course, j'ai aussi vachement de mal à... Je peux refaire mes plans, je peux faire des petites modifications, mais un changement aussi radical qui est de s'arrêter totalement et d'abandonner... C'est très difficile à imaginer. Donc vraiment, la solution la plus simple, c'est de s'accrocher à son plan et de continuer. Du coup, c'est pour ça que j'abandonne pas. Hein. C'est vachement dur d'abandonner, je pense.
Tu peux développer ce concept de s'accrocher à son plan ?
Moi, j'ai toujours, quand je commence une course, j'ai toujours un plan plus ou moins en tête qui va être perturbé hein, parce que mes plans sont toujours très optimistes. Hein. Oui, je vais finir ça en 2 jours, aucun souci, pas du tout. Je vais mettre 12 heures de plus, c'est sûr. Mais n'empêche que j'ai un peu une feuille de route à laquelle j'espère me tenir. À telle heure, si tout se passe bien, j'arrive à tel endroit, je peux faire un ravito. Si j'ai fait tant de kilomètres, si j'ai grimpé tant de dénivelés en tant de temps, ça veut dire que j'arriverai au point suivant et que je passerai la ligne d'arrivée à telle date. Donc, c'est ça, le plan. Et le plan, il est tout le temps en train d'être fait parce que tu vas toujours un peu moins vite, parce qu'il y a toujours, une péripétie qui va arriver, qui va te retarder. Et donc, le plan, il se refait continuellement. Je ne m'y accroche pas corps et âme parce qu'il change, il évolue. Il évolue, par contre, il ne changera. Enfin, le changement radical qui serait d'abandonner ou, je sais pas, de changer de route parce qu'on a envie de faire autre chose tout d'un coup, c'est vraiment ça trop radical. Donc, quand ça va pas, je reste sur le plan et je me dis que ce que j'ai imaginé, ça va peut-être se passer. Et il suffit juste de continuer et voir si ça se réalise ou pas. Et voilà, j'arrive plus trop à réfléchir et à. Ma capacité de réflexion est un petit peu réduite, donc je peux pas voir le gros détour, donc j'essaie de rester sur ma feuille de route.
Donc ça va rappeler des souvenirs à certains, tu te détermines un point de départ, un point d'arrivée, et entre les deux, tu mets des petites étapes et tu te raccroches à chaque étape en te disant « en voilà une de plus, en ouais. voilà une de plus, en ouais. voilà une de plus ». Et à un moment donné, miracle, t'es à l'arrivée,
voilà.
C'est ça ?
Exactement.
Merci.
Voilà. C'est très facile en fait hein, de faire du vélo, tu vois.
Ah mais je sais. Enfin, j'en fais pas autant que toi et je suis moins bon que toi, donc j'ai pas ce niveau d'expertise que tu as et cette finesse d'analyse. Mais du peu que j'ai fait, j'ai déjà quelques bribes de réflexion. Après ce BRM 400, comment tu as fait évoluer ta pratique d'une pratique finalement traditionnelle cyclotouriste, traditionnelle, hein, comme on l'a toujours connue depuis des décennies et des décennies, à ce qu'on appelle maintenant le bikepacking, donc du cyclotouriste en mode vitesse, économie d'énergie, poids léger.
Je suis passée par un 1200, par une course de 1200 km, hein, où encore une fois, c'était organisé par Chilkoot, hein, c'était au tout début de Chilkoot et de Luc Royer qui organisait ça. Luc Royer, il vendait les choses formidablement bien, il vendait des aventures. Et ça m'a totalement tapé dans l'œil, enfin, vraiment c'était... C'était une traversée de la France. Ça a l'air super excitant. Tous mes copains autour de moi, je faisais du vélo depuis à peine un an. J'avais jamais grimpé de col parce que j'en faisais que autour de Paris. Et je me disais, ouais, mais j'ai entendu ce truc-là, cette aventure, c'est 1200 km, ça passe dans les Alpes, ça a l'air vachement bien. Mais comment ça... Non, mais ça va être compliqué quand même. C'est beaucoup dénivelé, tu sais, Fanny. Oui, non, mais trop tard, je me suis inscrite. Et du coup, j'ai des copains qui m'ont accompagnée. Et on n'a pas fait la course à ce moment-là. On a fait juste ça en mode... Toujours en mode cyclotourisme. Il n'empêche que c'était un vrai dépassement de soi de faire ces 1200 km ensemble. On a fait ça en 4 jours, je crois. Et c'était absolument dingue. Et à partir de là, peu à peu, j'ai fait d'autres, je me suis inscrite sur d'autres formats de ce type, 1200 km. Et puis au bout d'un moment, quand la première fois, tu dis que tu mets 4 jours et tu dors à l'hôtel. Et en plus, après ça, t'en subis les conséquences physiquement, parce que c'était physiquement très dur. T'en fais un deuxième, tu dis, ah tiens, ça passe vachement plus facilement, en fait, j'ai mal nulle part quand je termine. Du coup, est-ce que je peux pas aller un peu plus vite? Est-ce que je peux pas rouler un peu plus longtemps? Et vraiment, petit à petit, j'ai fait plusieurs... il y a beaucoup de formats 1200 km précisément, en général. Donc ça, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait ou bien des trucs un peu plus courts, mais où là, je dormais un peu moins. Donc je suis passée par ce genre de distance jusqu'au moment où je me dis, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans la compétition un peu sans l'avoir réellement cherchée. C'est juste que moi, je cherchais à aller... En fait, comme les 1200 passaient assez facilement, entre guillemets, j'ai essayé de me mettre un peu plus en difficulté et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans la compétition.
Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Comment justement, tu étais passée d'une pratique cyclotouriste à une pratique compétitrice? Et tu y as un petit peu finalement répondu à l'instant. Mais qu'est-ce que ça change pour toi de te confronter d'abord dans un premier temps à toi-même, à tes limites, à vouloir les repousser, à te dire je vais essayer de rattraper ceux qui sont devant moi et éventuellement ne pas me faire rattraper par ceux qui sont derrière. C'est quand même un petit changement d'état d'esprit du coup.
Ouais, c'est un gros changement même. En fait, quand je suis sur une course, je pense rarement à ceux qui sont devant ou derrière moi. J'essaie d'aller le plus vite possible, comme moi je sais faire. Je connais ma limite. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et après, les autres, ils sont là autour de moi pour constater à la fin où est-ce que je suis dans ce classement-là.
Dans cette mouvance.
Et du coup, de me dire s'il y a des gens devant moi, ça veut dire que je peux faire mieux que ce que j'ai fait, étant donné qu'il y a d'autres gens à dépasser devant moi. Quand je suis dans la course, j'y pense pas. C'est après la course, quand je constate tout ça, je me dis, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Qu'est-ce que les autres qui étaient devant moi, ils ont géré plus efficacement? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour être dans la tête de course? Mais quand je suis dans la course, vraiment, je pense rarement à dépasser les gens qui sont devant moi ou à ne pas me faire rattraper par les gens qui sont derrière. J'y pense peut-être sur les 100 derniers kilomètres. Mais pendant, j'y pense pas beaucoup. Et d'ailleurs, je regarde très rarement le tracker.
Parce que ça fait partie de ton plan?
Je crois aussi que je ne suis pas suffisamment forte pour rattraper les gens sur le terrain. Moi, je suis suffisamment forte pour me dépasser, pour aller plus loin que mes limites, que les limites que je connaissais. Mais ouais, j'aurais du mal s'il y avait quelqu'un à juste 50 bornes devant moi. Je sais pas faire, je sais pas aller plus vite, je sais pas rouler vite, je saurais pas appuyer sur les pédales suffisamment efficacement pour attraper cette personne devant moi. Donc juste, je le fais pas. C'est peut-être une erreur, hein. C'est peut-être ça qu'il faut que je travaille.
Question piège, est-ce que tu le crois ou est-ce que tu le sais?
Je le crois, je le sais pas, parce que en vrai.
Donc tu le crois, ça veut dire que si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, t'en es capable.
Que j'essaie ça la prochaine course, que je me dis si je vois, s'il y aura toujours quelqu'un devant moi, mais disons que si je vois quelqu'un devant moi pas très loin, me dire que mon but c'est de le rattraper. C'est peut-être une bonne méthode pour essayer de m'améliorer en course.
Parce que souvent, ces temps-ci, on me l'a dit des fois, je ne pense pas en être capable, ou j'en suis pas capable, et je réponds, mais est-ce que tu le sais ou est-ce que tu le crois? Parce que si tu le crois, c'est comme son nom l'indique, ça fait partie du domaine des croyances.
Ouais.
Donc il y a de grandes chances que ce soit faux. Et si on le sait qu'effectivement on n'en est pas capable, et très bien, parce que les autres devant sont plus forts, et tant mieux, les autres, on trouve toujours plus fort que soi. Mais si on le croit et qu'on n'essaye pas, en fait, on n'en sait rien. Donc, si ça se trouve, on passe à côté de quelque chose, d'un trésor caché.
Je me suis toujours impressionnée en faisant le premier 200, le premier 300, le premier 400. La première fois que j'ai fait 1200 km, à chaque fois, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que je sais faire. Incroyable. Et du coup, peut-être que si j'essayais de rattraper les gens qui sont devant moi, peut-être que je me rendrais compte que c'est... Que la limite, elle n'est pas encore atteinte, et je trouverais ça aussi incroyable. Donc, à tenter.
À tenter. Fiona, attends, je vais lui envoyer un message. Garate. Comment on traduit Mich en allemand? Parce que je sais dire garate, mais je ne sais pas. Mich, je ne sais plus.
Je sais dire cochon d'Inde en allemand, moi. C'est tout ce que je sais dire. Donc,
Ah ouais, non, puis là, en plus, moi, l'allemand, ça ne m'intéresse pas. Là, je prépare l'espagnol. Donc, l'allemand, c'est pas du tout mon délire. Hein, là,
je dis un truc, on se débrouille extrêmement bien en Espagne sans parler un mot d'espagnol.
Je sais. Mes parents m'ont dit déjà.
J'ai passé un peu de temps et je ne sais toujours rien dire en espagnol.
Alors, ça, par contre, c'est pas cool, parce que tu as quand même passé un petit peu de temps dans des territoires hispanophones, que ce soit la Transibérica, puis après, je sais, t'étais sur Badlands avec Sofiane ou t'étais restée à la maison?
Non, je suis allée le rejoindre sur Badlands, ouais.
Et en plus, là, vous étiez aux Canaries, parce que c'est toi qui faisais les photos du nouveau vélo.
Ouais.
Attends, je rattrape la mèche, parce que là, ça faisait un peu trop quand même. Voilà. Et donc, t'as pas ramené un seul mot, non, mais quand même.
Non, c'est horrible. Hein. C'est horrible. J'ai passé mon temps en Espagne à me dire pourquoi c'est pas l'Italie. C'est abominable. Et pourtant, c'est très chouette l'Espagne. Mais ouais.
Bien sûr, les Espagnols sont cool. Est-il vrai que les automobilistes espagnols sont hyper soigneux avec les cyclistes?
C'est hyper vrai. C'est un truc que l'Espagne et l'Italie ne tiennent pas la comparaison là, parce que les Espagnols en voiture, ils sont adorables. Les routes déjà sont absolument géniales, t'as une bande d'arrêt d'urgence qui est immense et propre. Mmh. Et même si t'es sur la bande d'arrêt d'urgence, les automobilistes vont quand même te dépasser avec un soin extrême, ralentir derrière toi s'il y a des voitures en face. C'est vraiment des crèmes. C'est hyper safe de rouler en Espagne. Un bonheur.
Ouais. Est-ce que tu apprécies un petit peu cette marge de progression depuis quelques mois, quand même?
Cette marge de progression
Un petit peu un changement radical, une courbe. Ça donne l'impression d'une courbe un petit peu ascendante depuis que tu es avec Sofiane, depuis que je fais des épisodes avec lui et que tu es apparu dans le paysage. Je suivais déjà dès le début de Spotzol, je sais ce que tu fais, je suis ce que tu fais, même si je n'en ai pas l'air. Et ça donne l'impression qu'il y a eu comme une influence positive. Ou alors peut-être que c'est une impression et une erreur monumentale.
C'est pas une impression, mais c'est par contre c'est un peu grâce à Sofiane, mais c'est pas que à cause de lui non plus en fait.
C'est un ensemble alors.
C'est un ensemble, c'est parce que aussi j'ai arrêté de travailler depuis le mois d'avril. Et étant donné que je ne travaille pas, j'ai quand même vachement plus de temps pour faire du vélo. Mmh. Et d'ailleurs, je n'ai fait absolument que ça depuis le mois d'avril. Donc forcément, et j'ai fait beaucoup plus de courses. Aussi, dans ma progression logique, donc j'ai commencé par faire des courses de 1200 km. L'an dernier, j'ai fait 2000 km. Et en toute logique, cette année, j'en ai fait 3000. Voilà, il y a une progression qui est aussi logique de ce côté-là parce que voilà, je n'allais pas retourner en arrière sur des plus petites distances. Et puis en plus, ouais, je ne fais que rouler depuis le mois d'avril. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. Et beaucoup aussi de photos de vélo sur mon compte Instagram. Parce que c'est vrai que quand je reste à Paris et que je bosse, voilà, de voir des photos de Longchamp toutes les semaines, c'est vachement moins intéressant. Alors que là, entre l'Espagne, l'Italie et le sud de la France, c'était quand même vachement plus joli. À partager.
Alors, j'ai quand même envie d'en parler un petit peu, mais je suis prudent avec ça parce que j'ai pas envie de te réduire à la copine 2, tu vois. Je sais très bien ce que tu faisais avant et ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu pourrais estimer un petit peu l'influence de Sofiane sur ta pratique ou sur ton état d'esprit, sur des choses comme ça? Tu as un petit peu, à toute mesure gardée, l'influence de Julien Absalon sur Pauline Ferrand-Prévot, ce genre de truc.
Ouais, je sais, je suis pas sûre que je pourrais
le quantifier
mettre le
ou
doigt dessus
l'expliquer.
réellement parce que bah, peut-être que je vis avec lui au quotidien et on fait du vélo ensemble au quotidien. Donc du coup, je suis peut-être pas la plus à même de voir exactement cette influence parce que je la vis jour après jour. Hein.
Oui, t'as pas de perspective dessus.
Ouais, donc
Mais
moi,
est-ce que ça t'a
j'ai.
poussé un petit peu? Est-ce que t'as l'impression d'avoir été poussé ou est-ce que c'était déjà un élan que tu avais initié avant?
Non,
D'aller sur plus long, plus dur, plus vite.
moi, je crois que je me débrouille mieux pour progresser quand je suis seule. Quand il y a quelqu'un à côté de moi, je fais pas. Tu vois, si par devant, moi, au lieu de me dire ah bah tiens, je pourrais peut-être un peu en profiter pour essayer d'aller plus vite et pousser un peu plus sur mes jambes. Non, je vais plutôt faire la tronche et lui dire oh, tu m'as abandonné. Vraiment, moi, s'il y a une oreille pour m'entendre me plaindre, je vais geindre, hein, c'est sûr. Donc je me débrouille mieux pour progresser quand je suis seule parce que là, il n'y a personne pour m'écouter me plaindre, donc du coup, bon, au lieu de pleurer, j'avance, quoi. Et quand on roule ensemble, on est souvent en mode balade. En fait, il y a un truc que j'aurais probablement pas fait sans lui, c'est voyager autant cette année. Voilà. Et en plus, on aurait bien aimé aller plus loin que dépasser un peu les frontières de l'Europe, et ça n'a pas été possible en termes de
Eh oui.
situation sanitaire, tout ça. Mais voilà, si j'avais été seule, bah, tu vois, par exemple, après la Transibérica cette année, au lieu de traverser l'Espagne pour le rejoindre au départ de Badlands, bah, je serais rentrée à la maison, quoi. Mais là, je me dis, ah bah tiens, dans 3 semaines, Sofiane, il est dans le sud de l'Espagne, moi je suis dans le nord de l'Espagne. Bah super, je vais le rejoindre, mais en traversant l'Espagne à vélo. Voilà, c'est un truc que j'aurais pas fait, ça.
L'année prochaine, tu fais quoi alors? C'est quoi ton programme de l'année prochaine, c'est quoi toi?
Et bah, c'est d'abord reprendre le travail, du coup, peut-être moins rouler. Du coup, je sais pas. Je sais pas quel est mon programme parce que moi, j'ai pas le temps de faire des millions de courses. J'aimerais bien en refaire une d'environ 1000 km. J'hésite à me réinscrire à la Two Volcano parce que c'est l'Italie, parce que c'est chouette, parce que c'est Julien Arc qui organise et c'est une fille très chouette aussi. Voilà, moi, j'aime bien aller en Italie, je trouve ça cool. Donc voilà, il y a ça, mais ce sera pas mon but principal. Parce que maintenant que j'ai fait 3000 km, j'aimerais bien refaire 3000 km. Et j'ai pas trouvé de course en fait. Moi je roule sur route, donc il me faut une course route. Je lance un appel. Une course sur route, 2000 minimum, aux alentours de 3000, ce serait chouette. Probablement en Europe, parce que c'est plus facile pour moi, étant donné que je vais travailler et que je ne vais pas pouvoir prendre 2 mois de vacances. Il y a de nouveau la Transbérica, mais je l'ai faite cette année. Il y a la Fluipix que j'ai faite l'an dernier. Voilà, si je veux partir sur quelque chose de différent sur route, 3000 km, faites-moi une liste. Dites-moi ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans ce format-là, en fait.
J'ai l'impression, ouais, comme toi, que c'est un format entre guillemets bâtard, parce que ça va être tout de suite 2000 ou 4000.
Ouais.
Mais l'entre-deux. L'entre-deux de 3000, ah oh là là.
Ou même un peu plus de 2000, hein, 2500. Mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de nouveaux. Ouais. De nouveaux événements qui se profilent pour l'an prochain. Il y en a un autre qui m'intéresse bien aussi, qui est la Route du Silence, qui est organisée par Pascal Bride.
Ouais.
C'est 1200. Et ça va être très beau, ça va être très chouette. Mais voilà, il y a beaucoup d'événements autour de 1200 km. 1200, je sais que ça se gère en fait assez facilement dans un planning. Voilà, mais si je veux un gros événement, j'aimerais bien que ce soit au minimum 2000 km. 2500, 3000, ce serait hyper chouette. Mais ouais, c'est un format qui n'est pas très en vogue.
L'épreuve qui existe ou qui n'existe pas encore, qui te fait ou qui te ferait rêver, quelle est-elle?
Ouais, il y en a plein qui existent, hein, déjà. On peut déjà piocher là-dedans. C'est des.
Tout ce qui est transcontinental, ça t'intéresse?
La TCR m'intéresserait. Moi, ce que je trouve aussi très dommage, c'est que je fais pas du tout de gravel. Je fais du gravel quand on m'y oblige.
Là, tu es en train de pourrir ma question suivante. Alors, s'il te plaît, tu réponds à la question sur la TCR.
Très bien. Et ben, les TCR, les pays traversés, c'est pas les pays qui m'intéressent le plus. Et il y a ce truc où maintenant toutes les courses routes rajoutent des petits bouts, c'est-à-dire que j'ai grimpé un col entier en gravel et je l'ai descendu en gravel aussi fatalement sur la Transibérica. Je déteste ça, je veux dire, ça me ralentit, je trouve ça hyper chiant.
Bah, surtout avec un vélo de route, c'est quand même. Voilà. Autant la montée, ça peut se faire, ouais. Ça c'est toujours fait. Mais alors la descente, quand tu sais ce qu'on a maintenant comme vélo et devoir se taper ça avec des pneus de 25.
Ah oui, enfin, j'ai jamais roulé en 25, moi. Je roule quand même en route, je suis en 35. Mais.
Oh bah ça va alors, tranquille.
Ouais, non, tranquille, non, parce qu'il y a les pneus et puis il y a le cycliste. Hein, je roule pas trop gravel. Donc voilà, un événement de mes rêves, bah, c'est 2500 à 3000 km. Sur route, en traversant des pays où il fait très chaud. Voilà, en traversant plusieurs frontières, des pays où il fait très chaud. Voilà, allez-y, maintenant donnez-moi des événements comme ça. Je viens.
Ok, il va quand même falloir se creuser un petit peu la tête, parce que ça fait une petite trotte. Et en Europe, on peut avoir des surprises. Et à part l'Amérique du Sud.
Bah, tu m'as dit un événement dont je rêve.
Bah ouais, non, mais justement, bah écoute, reconversion possible. Voilà.
C'est à organiser, voilà. Ouais.
Tu prends ton baluchon, tu vas organiser une course en Amérique du Sud, à travers la Colombie. Bonne chance.
C'est vrai, non, ça me plairait pas mal.
Vers le. Tiens, départ et arrivée au Salvador. Comme ça, t'es sûr de pas avoir beaucoup de finishers.
Écoute, il y a un truc qui se met en place là, je trouve.
Ah, je pense, oui. On va bien rigoler. Bon, alors, pourquoi cette aversion pour le gravier?
Parce que j'ai commencé le vélo tard. Moi, j'ai pas ça dans le sang. J'ai pas ça dans tous mes membres. Je trouve que le gravel, ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'attention. Alors déjà, bon, il y a techniquement, je pense que je suis pas hyper au point. Et je trouve aussi que ça demande énormément d'attention permanente. Et moi, j'aime beaucoup laisser mon esprit vagabonder quand je suis sur la route. Déjà, je trouve ça hyper le bitume. Ça peut être hyper calme, hyper reposant. Là, quand t'es sur une route la nuit, tout seul, il n'y a pas de voiture à l'horizon. C'est presque tu dors sur ton vélo, quoi. Non, il faut pas faire ça. Ne dormez pas sur votre vélo. Mais il y a un côté méditatif, hein. Alors que le gravel, c'est rude, quoi. C'était tout le temps en train de regarder ta roue, tout le temps en train de regarder la prochaine racine, le caillou qui se profile, comment le gérer. Et puis en plus, t'es tout le temps tendu. Enfin, je trouve ça, c'est vachement dur, quoi. C'est déjà dur le vélo, alors ne me rajoutez pas des difficultés. Je sais pas, je suis pas fan. Ouais. Après, je le fais hein, quand je contrainte et forcée. Il y a beaucoup de courses qui en imposent, même les courses sur route. Donc, du coup, je passe, je râle, mais je passe.
Oui, donc tu râles beaucoup en fait quand même.
Je râle énormément.
Ah,
heureusement que je roule toute seule et qu'il n'y a personne aux alentours pour m'entendre, mais je râle tellement.
Bon, bah donc, ouais, ma proposition d'article pour un magazine sur Fanny et le gravier, ouais, je suis tombé complètement à plat.
Ouais. Pourtant, j'ai l'impression de le crier haut et fort.
Que tu n'aimes pas le gravier.
Le gravier, il y a toujours des gens qui viennent me proposer des trucs comme ça.
Ah ouais.
Toujours pas, en fait. Parce qu'il y a aussi des gens qui espèrent toujours que je vais m'y mettre comme si c'était la suite logique. Mais en fait, j'aime pas ça. Et puis en plus, j'aime la route, quoi. Vraiment. Il y a un truc aussi, je ne vais pas aller chercher autre chose, alors que vraiment, j'aime beaucoup être sur le bitume, moi.
Ah, tu aimes le son de la roue qui ronronne sur le bitume.
Ouais, j'aime bien ça.
Ouais. T'as le petit craquement de la roue dans le gravier, ça te... Ça te plaît pas, ça.
Les petits dérapages, non, ça me plaît pas du tout. Et puis, allez, après, il y a toujours une rivière à traverser aussi, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des rivières à traverser.
C'est le meilleur.
Ça mouille. Je ne comprends pas.
Eh bien, écoute, comme disait Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde.
Exactement.
Voilà. J'avais une question hyper intéressante. Comme souvent, j'ai un trou de mémoire. Si, pourquoi le choix d'un vélo sur mesure? Parlons de choses très pragmatiques.
Alors, je vais encore dire ça. C'est pas moi qui ai choisi. J'ai l'impression que vraiment, on m'a imposé de faire du vélo tellement... Ou peut-être que toutes les choses, en fait... autour du vélo viennent naturellement à moi. Un 200 km, ça vient à moi. Un 1200, ça vient à moi. Et le vélo est venu à moi également. C'est Julien de Joli Rouge Cycle qui me suivait un petit peu. Et on s'est rencontrés à l'occasion du Paris-Brest-Paris en 2019. Il avait envie de faire un vélo pour quelqu'un et d'avoir un pilote officiel. Il aimait juste cette idée que son vélo se balade partout, beaucoup. Et du coup, il lui a semblé que j'étais une bonne candidate. On s'est rencontrés, on s'est très bien entendus, on avait la même vision des choses, du vélo, de comment rouler. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé de me faire un vélo pour que je sois officiellement sa pilote. C'est-à-dire que j'ai un vélo joli rouge et que je pilote ce vélo joli rouge un peu partout. C'est pas très difficile pour moi, quoi.
Donc, c'est pas une raison, entre guillemets, anatomique.
Non.
Comme Elisabeth Lavaille qui m'avait dit « Je suis gaulée comme une sauterelle, j'ai un tout petit buste avec des jambes immenses. » Donc, toi, t'es...
Moi, je suis un bout de caoutchouc. Je m'adapte vraiment à tous les vélos, j'ai l'impression. J'ai mal nulle part. Je bouge un peu ma selle, je bouge un peu mon guidon. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est très facile de me faire un vélo et de me filer un vélo. Mais il y avait après, j'avais quand même, à l'époque où Julien m'a proposé de me faire un vélo, j'avais quand même cette envie d'avoir un nouveau vélo. Et par amour des belles choses, j'avais envie d'avoir un vélo tout fabriqué depuis le premier tube jusqu'au dernier câble. J'avais envie de le voir se fabriquer aussi, donc je m'orientais de toute façon vers une fabrication artisanale et française, et Julien m'a offert tout ça sur un plateau. C'était juste génial d'imaginer le vélo avec lui, d'en discuter, de le rêver, d'aller voir. J'ai été aussi, parce que ça lui a pris une année à le faire tranquillement parce qu'on n'avait aucune urgence, donc j'ai été plusieurs fois dans son atelier là-bas vers Chambéry, pour voir le vélo se fabriquer au fur et à mesure. On a choisi la peinture ensemble, c'est lui qui a fait la peinture également, on a choisi le décor du vélo. C'était formidable. Et de toute façon, j'aurais été vers quelque chose comme ça, juste parce qu'un vélo, c'est aussi un bel objet. Et que voilà, je suis contente d'aimer à ce point mon vélo, de le trouver absolument, c'est le plus beau vélo du monde.
Je reviens sur mes questions. Alors, On va attaquer la séquence Les conseils de Fanny.
Oula.
Exactement. Donc, même si on y a répondu, il me semble important à ce stade de l'épisode de formaliser un petit peu tout ça. Les conseils de Fanny pour faire son premier 200.
Ah, c'est à moi, il n'y a pas plus de.
Non. Non, non, il n'y a pas plus de, d'introduction et de tambour et, tambour et trompette. Les conseils de Fanny pour préparer, réussir son premier 200.
C'est tout.
Moi, j'ai pris une position totalement décontractée parce que j'étais légèrement tendu assis en tailleur dans la salle de jeu des enfants. Donc là, petit à petit, je suis en train de me vautrer sur le tapis et franchement, je le vis hyper bien.
Je suis un peu déçu de ne plus voir l'alligator, mais écoute, on gagne.
Attends, l'alligator.
Un alligator là.
Alors, c'est pas un alligator, c'est un crocodile ramené du zoo de Mulhouse. Voilà, pour être tout à fait précis, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui habitent dans le coin et tous mes amis de l'Est. Voilà, je maîtrise le zoo de Mulhouse. Et tout ça dans une posture totalement décontractée.
Conseil pour un premier 200, y aller avec des copains, y aller sans pression, se dire juste qu'on va rouler toute la journée et qu'on va passer une super journée sur le vélo. Voilà. Il sera temps de voir les performances après. Si c'est un premier 200, il faut juste se dire qu'on va passer une journée entière sur un vélo et que ça, du coup, ça va être bien parce que c'est les meilleurs moments. Du coup, y aller avec des copains. J'ai pas
voilà, juste,
de technique, hein. J'ai pas
juste
de
ça.
Nourriture, de. Non, on fait comme d'habitude. D'habitude, on sort le matin ou l'après-midi. C'est la même chose en x2.
Voilà, c'est juste plus long et qu'on mange plus et qu'on ça.
Voilà. C'est une bonne journée.
C'est une bonne grosse journée. Ouais. Comment réussir sa première sortie de nuit ? Départ de nuit ou arriver la nuit ? Comment on appréhende ce fameux roulage de nuit qui peut tant intimider ?
Ouais, alors là, il faut peut-être un peu plus se préparer parce que ça va peut-être être un peu moins joyeux parfois parce qu'on va s'endormir peut-être un moment. Donc toujours y aller avec des copains. Première fois, je pense que c'est bien, les copains.
Ou des copines.
Ou des copines.
C'est bien aussi,
les
copines.
Les copains, en général, je crois qu'encore en français, tu sais, on met les choses au masculin même quand c'est au pluriel et qu'il y a du féminin dedans.
Ah, moi, je sais plus. Là, je suis paumé maintenant avec tout ça. Je
ouais,
sais plus.
Il y a les nouvelles règles d'orthographe maintenant et de grammaire.
Je sais bien que le langage est évolutif et qu'on parle plus aujourd'hui comme on parlait dans les années 60 et encore moins au début du siècle et qu'on vit un moment charnière. Mais là, j'avoue être légèrement paumé, donc je prends toutes les précautions possibles pour ne pas passer pour un vieux réactionnaire.
Je vais dire qu'il faut y aller en groupe avec des personnes qu'on apprécie. Et en plus, en fait, de se dire qu'on va passer une bonne journée, bah, du coup, il faut prévoir quand même des petites loupiottes qui éclairent bien. Et je pense que le groupe autour de soi fait la différence. Moi, sur mon premier 400, sur ma première nuit entière de vélo, j'obligeais les potes à me parler et à me chanter des chansons parce que c'est comme ça que je restais éveillée. Et voilà, et tout seul, ça aurait été beaucoup moins drôle. Il faut apprécier quand même, il faut aussi apprécier ces premiers moments, ces premières nuits. Moi, j'en retiens aussi beaucoup de. Il y a les sons qui changent énormément. Si on y va au coucher du soleil, il y a un moment où la nature autour de nous fait vachement de bruit avant de s'endormir. Et pareil, le matin, juste avant le lever du soleil, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a tous les oiseaux qui piaillent aux alentours. Être attentif à tous ces changements, parce que c'est des moments où on n'a pas l'habitude d'être dehors finalement. Il faut réussir à les apprécier. Pas se dire que c'est une performance à tout prix et que ça va être, ça doit se faire dans le dur et que ça va être hyper douloureux. Ça va éventuellement être un peu douloureux avant d'avaler le premier café, mais c'est quand même aussi vachement beau et vachement surprenant en fait de faire ça. Et donc il faut réussir à l'apprécier. C'est encore une fois, c'est pas du tout des conseils techniques. Je suis très ésotérique ce que je raconte, mais je crois que c'est ça qui aide réellement, c'est d'apprécier ce qu'on fait.
Ce sont tes conseils et tous les conseils sont bons à prendre. Et si pour aider à faire mieux passer la pilule, et ben il suffit de regarder les petits lapins dans les champs, et ben c'est génial parce qu'il n'y a rien de plus beau que de croiser une famille de petits lapins ou encore mieux une famille de sangliers.
J'ai jamais fait les sangliers, j'en ai jamais vu. Je les ai entendus.
C'est quand tu les vois par ordre, on dirait les Dalton avec maman sanglier au début, qui veille au grain, qui sort la tête, qui regarde de gauche à droite, et il traverse, et tu vois le tout petit derrière, et tu dis, oh putain, là, faut que je reste à 200 mètres. Si je m'approche, j'en prends une, c'est sûr et certain.
Moi, j'ai beaucoup apprécié voir les porcs épics sur la Toulouse. C'est un truc incroyable. Tu te dis, mais déjà, les porcs épics, en fait, ils sortent la nuit. Donc, c'est un truc que tu es en journée, tu les vois pas, et il y en a pas en France, quoi. Donc, je trouve ça dingue. C'est ouais, faut être. Si on roule la nuit, il faut s'étonner des choses qu'on voit pas le jour.
Ouais. Même, tu vois, être capable de s'émerveiller de choses simples. Ça donne vachement de valeur à un truc a priori incroyable ou exceptionnel, alors que finalement c'est pas incroyable ou exceptionnel, c'est juste faire un tour de vélo. Mais par contre, profiter des petits bonheurs simples comme voir une famille de lapins, un porc épic ou tout autre animal selon l'endroit où on se trouve, ah, ça donne de la saveur quand même. Puis ça fait un truc à raconter que les gens vont comprendre, parce que si on dit ouais, ce week-end j'ai fait 400 km. Bon, y en a beaucoup pour qui ça va être bizarre, mais raconter, ouais, j'ai vu une famille de lapins, ou j'ai roulé dans des traces toutes fraîches de sangliers, ou j'ai failli me faire rentrer dedans par un groupe de cerfs dans la forêt de Fontainebleau.
Ouais, partager ce genre de moments, c'est vachement plus accessible à des gens qui font pas de vélo.
Ouais. Et puis en plus, je trouve que c'est, tu vois, des sorties que j'ai fait à Fontainebleau, ce que je retiens, c'est cette famille de cerfs qui m'a coupé la route 10 mètres devant la nuit.
Ouais,
et de se dire qu'à 30 secondes près, je me faisais déglinguer par un cerf.
Ouais, mais ça, on retient pas en général.
Hein?
On retient la belle image plutôt que les ouais. moments où éventuellement tu vas te faire déglinguer par un cerf.
Ouais, bah, de toute façon, je pense que j'y aurais laissé la peau, donc, ou en tout cas, je ne serais plus là pour en parler avec tous mes membres ou normalement. J'avais une dernière question, une dernière thématique, et non, le truc était devant moi, je ne l'avais pas vu. Et pour réussir sa première nuit dehors, quel souvenir tu gardes de ta première nuit intégrale, de ton premier bivouac, de ta première nuit dehors?
Ah, de dormir dehors, tu veux dire?
Ouais.
Je dors très très peu dehors. Je dors très très peu.
Ça veut dire que techniquement, tu t'arrêtes très peu, ou alors tu t'arrêtes à l'hôtel, dans du dur?
Alors, soit je m'arrête à l'hôtel, alors soit je suis en vacances ou en mode bikepacking et je suis tranquille. Du coup, je préfère largement être à l'hôtel. Parce que porter une tente, c'est lourd, et puis en plus, je sais pas, j'apprécie le petit confort de la douche et d'un bon lit. Et si je suis sur une course et que je dors dehors, je vais m'arrêter déjà très très peu, donc je dirais aller 3-4 heures grand max. Par contre, vraiment trouver l'endroit idéal, en fait. Protéger, des fois on a l'impression que l'endroit est à peu près bien parce qu'il a l'air confortable. Mais en vrai, il faut qu'il soit aussi protégé du vent, protégé du froid. Parce qu'en fait, sinon, on ne se repose pas. Donc, vraiment trouver l'endroit bien pour dormir, pour pouvoir se poser son petit bivouac, c'est le truc le plus important. C'est pas parce qu'on est... Si on est fatigué, bon, et qu'on doit s'arrêter, parce que sinon, on s'endort sur le vélo, il faut s'arrêter, forcément, quel que soit l'environnement. Mais idéalement, si on veut se reposer réellement, il faut vraiment trouver l'endroit parfait, quitte à faire quelques kilomètres de plus. Quand on est crevé, ça peut être difficile à envisager, mais si le repos, le vrai repos est à ce prix, il faut faire ces quelques kilomètres de plus et trouver l'endroit idéal.
On n'y coupera pas. En tant que femme, est-ce que le bivouac dehors est plus difficile que pour un mec?
Non, je crois pas. Alors.
Question piège, hein, parce que Sophie Gâteau m'avait dit, t'inquiète pas, quand quelqu'un veut t'agresser, il n'y a pas besoin d'attendre que tu sois au bivouac pour te faire agresser.
Ouais,
donc l'endroit n'a pas d'importance.
Et je sais pas, je me suis jamais. On me pose la question.
Oui.
Et
je te la pose parce que c'est récurrent. C'est une inquiétude récurrente et légitime.
Et avant qu'on commence à me poser la question, je m'étais jamais rendu compte que c'était dangereux, en fait. Non, je crois pas. Je pense qu'en plus, à partir du moment où tu es sur un vélo, que tu dors dehors, a priori, tu es physiquement pas très attirant. moi, en tout cas, je suis rarement élégante et je sens rarement le savon. Je veux dire, quand je passe une nuit dehors, quoi, a priori, c'est que j'ai fait beaucoup de vélo avant et que je vais faire beaucoup de vélo après. Donc, je me sens un peu repoussante. Donc, j'ai du mal à envisager que quelqu'un m'approche à moins de 2 mètres, que ce soit pour une raison ou pour une autre.
Sauf si c'est un porc épic.
Oui, mais ouais. En plus, tu vois, enfin, vraiment, est-ce que les gens de loin se disent « Oh tiens, ceci est une femme cycliste qui passe la nuit dehors, je vais aller l'agresser ?» Je pense qu'ils ne font pas la différence. Les gens de loin se disent « Tiens, quelqu'un passe la nuit dehors, je vais aller l'agresser. » Donc là, que je sois un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, non ? Je pense qu'il y a le même risque. Ou il y a la même absence de risque.
Je me sens obligé de poser la question, parce que comme tu le sais, c'est des questions qu'on voit passer souvent, c'est légitime d'avoir un petit peu la trouille, mais la peur de dormir dehors, elle est pareille pour tout le monde, hommes et femmes, mais...
Ouais, ça, enfin, vraiment qu'on soit un homme ou une femme, finalement, je pense que quelqu'un qui a envie d'agresser, de te dépouiller de ton portefeuille, il va voir une silhouette dans le noir qui dort... Hein. Il va pas se dire tiens ça va être facile en plus c'est une femme. Non, il va se dire j'ai envie de ce portefeuille qui doit être quelque part sur cette personne qui dort dehors. Il va pas se dire c'est un homme ou c'est une femme. À moins que l'homme ait une carrure absolument effrayante. C'est pas le cas de tous les hommes non plus quoi. Donc
non, je bah, surtout pas, surtout pas les cyclistes. Hein. Dernière question subsidiaire, comment tu as fait évoluer ton matériel ces dernières années, indépendamment de la marque, de la matière, au fur et à mesure que ton expérience et ton exigence grandissaient? Si tu devais retenir la manière avec laquelle tu as fait évoluer tes sacoches, la manière de disposer tes trucs, qu'est-ce que tu retiens?
Je retiens que je suis extrêmement efficace. Je pense que les plus gros changements pour moi, ça a été en termes de largeur de pneus, de lumière et de sacoche. Donc, et tout ça est extrêmement, extrêmement efficace. Donc là, je suis passée seulement cette année en tubeless et en fait, c'est vachement bien. Les gens ont vachement peur du tubeless.
Tu peux le redire plus fort, s'il te plaît ?
c'est pas mal. C'est pas mal le tubeless, en vrai.
Ah non, mais... c'est vachement bien, Fanny, oh !
Non, ouais, c'est vrai que c'est hyper cool, parce qu'en fait, tu crèves, tu fais rien. Tu crèves, t'as vraiment une grosse crevaison, comme si t'avais une crevaison en temps normal en chambre, tu mets une chambre à air, quoi. Donc c'est pas compliqué, finalement. Donc c'est beaucoup de confort, parce que t'es sur la route, t'as une crevaison, tu fais rien. C'est vachement agréable. Les lumières, je suis passée en dynamo et c'est aussi un vrai bonheur, parce que pareil, on n'a pas besoin de se prendre la tête à penser à des piles en plus, un chargeur, s'arrêter pour charger, des batteries, etc. Donc vrai confort et les sacoches, je suis devenue extrêmement efficace, je sais. En fonction de est-ce que je fais une course, est-ce que je fais une course de 1000 km, est-ce que je fais une course de 3000 km, ou est-ce que je suis juste en train de me balader au milieu de l'Espagne, juste pour mon plaisir personnel, je vais ranger les choses différemment, je sais exactement où les choses sont rangées et à quel moment les sortir et quelle sacoche ouvrir pour ce faire. Je suis redoutable d'efficacité et même moi, je trouve ça incroyable comme c'est entré dans ma pratique facilement et comment je l'ai intégré et comment je m'adapte en fonction de tous ces éléments.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années ou quelque chose qui est inhérent à ta personnalité ? Est-ce que déjà de base, tu es organisée ou plutôt bordélique ?
De base, je suis organisée, mais... Mais le fait que ce soit autant rentré en moi aussi facilement, je pense que il y a beaucoup d'expérience aussi. C'est à force de faire les choses, au bout d'un moment, ça te semble naturel de les faire. mais c'est parce que j'en ai fait beaucoup.
Donc ça veut dire que tu ramènes ces pratiques même à la maison qui te poussent à remplacer les bouteilles d'eau par un bidon.
Ouais.
C'est un peu ça quand même.
Toujours des éléments de vélo dans ton environnement, quoi que tu fasses.
Ouais. Donc en fait, quand vous allez manger, vous prenez simplement vos sacoches et vous allez sur le canapé, vous emmenez vos sacoches machin et puis voilà.
Exactement.
Vous mettez la sacoche de sel accrochée à la ceinture et c'est parti.
Ouais,
coupe la pizza, on la met dedans et hop.
Et puis on a juste une fourchette qui fait aussi cuillère et hop, ça fonctionne.
D'accord, donc je suppose que même à la maison, les brosses à dents sont coupées en deux.
Exactement.
Ouais, mais c'est génial ça. Bon, Fanny, écoute, il est venu maintenant le temps pour moi de te remercier vivement et de te laisser pour la minute de solitude que tu ne connais peut-être pas. Et si tu ne la connais pas, eh bien, tu vas en faire connaissance dès maintenant. Donc, je te laisse, tu dis ce que tu veux, tu prends le temps qu'il te faut, tu dis ce que tu veux. Et quand tu as terminé, tu ne touches à rien, tu laisses ton ordinateur ouvert et cet onglet ouvert. Et je m'occupe du reste et je te tiendrai au courant quand tu pourras retourner à une activité normale. Fanny, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à très bientôt sur le vélo.
Ça roule. Ciao, Richard. Ok, en vrai, je la connais, la minute de silence. Et du coup, je l'ai préparée. Je ne l'ai pas préparée assez bien parce que l'eau n'est pas chaude. Mais j'ai envie de me faire un café. Attendez. Pour les gens qui ont la vidéo, j'ai une super machine à café. Voilà. Et du coup, j'ai une minute pour me faire un café. Du café fraîchement moulu. C'est obligé. Parce qu'on n'est pas fan de café si on boit du café qu'on achète déjà moulu en supermarché, c'est encore pire. Et du coup, pendant que l'eau chauffe, je peux vous dire que ce café vient de chez Ambition, dans le 15e arrondissement à Paris. C'est un type qui fait du café et qui fait du vélo. Et il fait les deux choses très bien. Voilà, donc c'est du très bon café. Du coup, je sais pas si les gens, ils auront tous la vidéo. Dans le cas où ils l'ont pas, c'est une machine manuelle que j'ai remplie d'eau chaude. Je dois nettoyer d'abord la machine. J'ai mis trop d'eau. Voilà, je nettoie et je chauffe la machine en même temps. Mon café fraîchement moulu. Hop. Ça va me prendre beaucoup plus qu'une minute, cette chose. Et voilà, dose parfaite. J'ai mis un peu trop d'eau en vrai. Cheers. C'est bon.
C'était bien. C'était bien. Je vais
me
casser. Merde, on est filmé.
Non, on est filmé.
Ça va, ils voient pas nos têtes.
Non, puis normalement, c'est après la mine de solitude, donc il y a peut-être aussi. Hop là. Nous mettre ailleurs. Face au canapé.
Je vais la presse un peu. Je lui dis qu'il fallait qu'on. Je lui demandais si c'était vraiment pertinent d'appeler ça une web série.